Immersion.
Un reportage de Radio Présence.
Mais comment faire pour être heureux ?
Ah oui, là c'est... d'escalade. Et le magasin, il est là-bas. Vous voyez, c'est encore plus haut. Mais après, bon, c'est le toit. Alors là, ce sont les archives de la catholicité. Et ce n'est pas moi qui m'en occupe, mais je vais vous dire la différence. Allez, je vous précède. J'allume.
Faites ceci en mémoire de moi, nous a dit le Christ. Dans son exhortation apostolique Evangelii Gaudium, le pape François explique que la mémoire est une dimension de notre foi. Depuis les origines, pour en faire mémoire, l'Église catholique s'est attachée à garder la trace de son histoire. Si le Centre national des archives de l'Église de France conserve les archives des organismes centraux, une multitude de fonds sont disséminés dans les diocèses, paroisses, congrégations et instituts religieux. Les conserver, les transmettre, les valoriser est un enjeu pour comprendre et relire notre histoire. Et c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui avec ce reportage « Église et mémoire ». En compagnie de Christian Lavial, tout nouvel archiviste du diocèse de Toulouse, puisque nommé à l'automne 2020, nous venons de grimper jusqu'au dernier étage de l'archevêché, rue Perchepinte. Et nous sommes à présent au cœur des archives historiques du diocèse de Toulouse.
Je prends la clé. Donc là, on est dans le bureau. Donc là, essentiellement, je me sers beaucoup des ordos de la semaine catholique et de l'état du clergé. Et puis aussi, si j'ai une question qui porte sur une paroisse qui a déjà fait l'étude ou sur un prêtre qui a déjà fait... par exemple, il y a énormément de livres sur le cardinal Saliège. Je peux prendre un exemple sur tous les archevêques.
Alors, nous continuons à monter.
Oui. Là, on est au sommet de l'édifice. Bon, alors là, ce sont le magasin des archives. Donc là, cette première pièce-là est importante parce que vous avez là, si vous voulez... toutes les paroisses, c'est-à-dire en fait toutes les communes du diocèse, qui sont classées par ordre alphabétique. Donc dès qu'arrive un document, une information liée par exemple, je ne sais pas, moi je vois Carbone, là, on le met là. Vous voyez, donc dans l'ordre alphabétique, vous avez de A à Z, si on peut dire, donc toutes les paroisses de Toulouse. Et donc, il y a ici une documentation. Alors, on trouve des choses aussi bien du 19e que du 20e. Mmh. Donc, on range là, systématiquement.
Dans une chemise. Hein.
Là, ils m'ont apporté un article de la Dépêche sur Bellegarde-Sainte-Marie. Mmh. Je le mettrai dans la chemise concernant Bellegarde-Sainte-Marie. Là, beaucoup de questions qui me sont posées, je trouve les réponses là-dedans. Mmh. Parce que quand il y a une question sur l'église, par exemple, de Carbone, c'est là que je peux trouver des choses. Donc ça, c'est extrêmement utile.
Donc le classement, c'est vraiment le principe de base de l'archiviste. Hein. Bien classé.
Ah oui, voilà.
Sinon les documents sont perdus.
Voilà. Alors, maintenant, je m'y retrouve.
Comment, pourquoi ce spécialiste de droit public et administratif, professeur émérite à l'université Toulouse-Capitole, est-il devenu le gardien des archives diocésaines ?
Donc, effectivement, ma fonction principale, et qui a longtemps été la seule, j'étais professeur donc, de droit à l'université Toulouse-Capitole. Et devenant émérite, il se trouve que le curé de ma paroisse est le chancelier du diocèse, et que j'avais eu l'occasion, avant même qu'il devienne curé de ma paroisse, de le rencontrer dans un groupe biblique qu'il animait. Et donc, lorsque s'est posé l'an dernier, puisque je ne suis là que depuis peu, finalement, depuis novembre, lorsque s'est posé le problème de remplacer le précédent archiviste, à la sortie de la messe dans ma paroisse, il m'a demandé si ça m'intéressait. Et je lui ai dit pourquoi pas. Et puis voilà. Voilà comment ça s'est fait. C'est aussi simple que cela. Voilà. Alors là,
Je vous suis. On va voir un petit peu quel est ce fonds, hein, quelles sont ces archives, si vous-même vous faites des recherches, on va voir tout ça. Mais d'abord, peut-être nous circonscrire le rôle et la mission d'un archiviste diocésain, d'un archiviste historique. C'est là que vous allez nous faire peut-être la différence entre les archives de la catholicité et puis les archives historiques.
Oui, dans le diocèse, comme dans tous les diocèses, c'est un découpage qui n'est pas propre évidemment au diocèse de Toulouse, il y a deux sortes d'archives. Il y a les archives historiques, là où nous sommes et dont je suis l'archiviste, dont l'objet est de conserver tout ce qui est produit par l'activité, au fond, de l'Église, de l'institution. Donc toute la documentation produite par les activités de l'Église. Et depuis, nous aurons l'occasion de le préciser, en gros, depuis le Concordat. Parce que sous la Révolution, il y a eu la nationalisation des biens immobiliers et mobiliers du clergé en 1789, mais en 1792, il y a eu la nationalisation des archives du clergé. Donc toutes les archives du clergé antérieures à la Révolution et durant la Révolution sont maintenant devenues des archives publiques et sont dans les archives ou municipales ou départementales. Donc nous, les archives historiques, en réalité, sont les archives historiques constituées par l'Église et donc par les diocèses. C'est valable évidemment sur toute la France. Et elles remontent à 1801, puisqu'avec le Concordat, l'Église a pu à nouveau constituer des archives. Donc, en gros, les archives historiques, c'est de 1801 à nos jours. Donc, ce sont les archives historiques, donc toute la documentation liée à l'activité de l'Église, finalement, dans le diocèse de Toulouse. À côté de cela, il y a les archives de la catholicité qui, elles, concernent, si vous voulez, en gros, ce qu'on pourrait dire, l'état civil des catholiques. Les actes de baptême et de mariage et les décès, donc l'état civil catholique, qui sont là encore plus consultés, si l'on peut dire, que les archives historiques, parce que là, il y a des gens qui ont besoin de ces actes,
pour
faire des démarches, pour, par exemple, s'ils veulent se marier, pour prouver qu'ils ont été baptisés, etc. Donc là, il y a des archives de catholicité, et si vous voulez, ou en deçà d'une certaine date, ces archives de catholicité deviennent des archives historiques. Disons, je dirais, moi, en gros, la Seconde Guerre mondiale. En deçà, c'est sans doute historique. Donc, par exemple, pour une illustration concrète, quelqu'un voulait savoir si Carlos Gardel était né à Toulouse, et donc, parce qu'il y a des controverses, semble-t-il, je ne connaissais pas, et donc, il fallait rechercher et son acte de baptême. Et son acte de baptême, si vous voulez, il remonte au début du 20e, je ne me rappelle plus, je crois que c'est 1910 ou 11, enfin, de ces années-là. Là, c'était historique. Ce n'est pas dans les archives de la catholicité. Donc, tout ce qui remonte au-delà d'une certaine date en descendant, c'est les archives de la catholicité qui basculent dans les archives historiques. Donc voilà les deux séries d'archives, et nous sommes deux. Nous sommes deux. Nous sommes deux. Moi, je ne m'occupe pas des archives de la catholicité. Là, vous voyez, là, c'est archives de catholicité. Registre, mariage et baptême, sépulture. Là, c'est registre de la catholicité. Ensuite, ce qui m'est extrêmement utile, ce sont les deux choses les plus utiles, c'est tout ce qui concerne les documents liés aux archevêques de Toulouse. Ça commence, si vous voulez, avec le premier, depuis le Concordat. Donc on a tous les archevêques de Toulouse.
Et le premier, c'était Monseigneur
Prima, qui a été en 1802, et qui présente la particularité d'être un archevêque qui a été repris alors qu'il avait été un archevêque constitutionnel.
Il y en a très peu qui ont été repris, des constitutionnels. Donc, ensuite, donc Beauvais, Clermont-Tonnerre, on a donc là, d'Astros, on les a tous, dans l'ordre, si vous voulez, Monseigneur Germain. Et alors, donc là, donc on revient ici, c'est là qu'on a Saliège. On a Saliège, ensuite on les a dans l'ordre, donc Garonne qui lui a succédé. Donc Garonne, il y a beaucoup de choses, aussi, vous voyez, regardez Garonne, par exemple, là, tout ce qui a trait à la jeunesse étudiante chrétienne, à témoignage chrétien, les actes pastoraux, donc tous les documents qui se sont passés liés à ça sous le cardinal Garonne, archevêque de Toulouse, c'est là. D'accord, là, c'est les questions pastorale. De pastorale ouvrière, voilà. Donc là, c'est les années 60.
C'est l'effervescence de Vatican II aussi.
Exactement.
On voit la pastorale ouvrière, les relations avec les religieux, la GEC, le témoignage. Tout ça, ça dit quelque chose de l'époque.
Oui, c'est ça. Donc là, on a cet accès autour, si vous voulez, des archevêques et de tout ce qu'ils ont impulsé. Mm-hmm. Après, c'est Guyot. Vous voyez, Guyot, il y a énormément d'archives aussi, Guyot. Mm-hmm. Là où il y en a énormément, je crois que c'est lui qui a le record, c'est Coligny. Les synodes, les chantiers diocésains, Lourdes, Assemblée des évêques.
Là, c'était en 1985, voilà, Monseigneur Coligny.
Donc, Monseigneur Coligny, vous vous rendez compte, lui alors, il en a des... C'est inimaginable. Regarde, et ça, c'est là aussi. Je ne sais pas pourquoi il y a... il est resté longtemps en Coligny. Ensuite, donc, c'est Marcus. Donc, c'est le cœur, ici, du magasin. C'est les paroisses, que je vous ai montré tout à l'heure, et la vie du diocèse à travers la plaque tournante, en quelque sorte, qu'est l'évêque. Donc là, on est dans le bureau. Donc là, essentiellement, je me sers beaucoup de, vous voyez, des ordos, de la semaine catholique et de l'état du clergé. Et puis aussi, si j'ai une question qui porte sur une paroisse qui a déjà fait l'étude ou sur un prêtre qui a déjà fait... par exemple, il y a énormément de livres sur le cardinal Saliège. Je vous donne un exemple sur tous les archevêques. Parce que les archives, ce n'est pas une bibliothèque. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir de livres. C'est que des documents. Ce ne sont que des documents. Mais là, évidemment, là, ça se présente comme des ouvrages, ce qui est situé derrière moi. Mais c'est le produit de l'exploitation des archives. Par exemple, si vous voulez, quelque chose sur les églises du canton d'Aurignac. Donc, un érudit a fait une étude... sur les églises et chapelles de la Haute-Garonne. Donc, il s'est servi, évidemment, de nos archives, et ça donne ça. Donc là, derrière, ce sont des livres, des ouvrages, des thèses, des mémoires d'étudiants qui résultent de l'utilisation de nos archives. Alors, oui, quel est le public ?
Oui.
La question, c'est quel est le public ? Il est très diversifié, le public. Il y a d'abord, effectivement, les universitaires, essentiellement, mais il peut y avoir aussi des enseignants, des chercheurs enseignants, mais j'ai essentiellement, depuis que je suis là, je suis là depuis novembre 2020, ce sont essentiellement des étudiants, pour le moment la plupart en provenance de l'université Jean Jaurès, et qui font donc des mémoires et qui exigent, si vous voulez, l'accès à de la documentation que nous avons. Par exemple, il y a beaucoup de... Pour vous donner l'exemple le plus significatif, parce que c'est là qu'il y a le plus de mémoire, c'est essentiellement autour du cardinal Saliège, autour du rôle de l'Église de la Haute-Garonne pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc là, c'est quelque chose, la protection des Juifs, c'est quelque chose qui est extrêmement étudié, et donc il y a énormément de demandes concernant cette période et autour du cardinal Saliège. Là, c'est vraiment, si on devait faire un top, c'est le top, il sera en premier dans ce palmarès. Ensuite, nous avons, je l'appellerai, des érudits locaux, qui vont faire des études parce qu'ils sont intéressés par la chose historique. Alors, ils vont étudier, par exemple, parmi les sujets d'études les plus fréquents, c'est l'église de leur commune. Essayer de faire l'histoire de l'église de leur commune. Ou
retracer la biographie d'un personnage et le plus souvent d'un prêtre de leur commune. Donc là, il y a beaucoup de recherches faites par des érudits sur des églises, sur des prêtres des communes. J'ai des demandes liées à la généalogie. Donc là, ça porte sur des actes de catholicité qui reviennent à moi, donc anciens, donc aussi bien du 19e que du 20e, jusqu'à ce que, évidemment, ils rentrent dans ma compétence et qu'ils ne basculent pas dans celle de la catholicité. Donc là, beaucoup de demandes, oui, là, j'ai beaucoup de demandes, enfin, beaucoup de demandes, je dirais que j'ai 2-3 demandes par semaine, d'ordre généalogique, ou alors portant sur la vie de prêtre. Il y a beaucoup de... J'étais étonné, parce que moi aussi, j'ai découvert. Et là, heureusement, on a une Bible. Une Bible, là, je viens de l'utiliser parce que je viens d'avoir une demande juste avant que vous arriviez. Alors, ce livre, c'est un livre de base. C'est le clergé du diocèse de Toulouse au 19e et 20e siècle. Donc, là, vous avez, comme dans un dictionnaire, tout, en principe, tout, presque tous, il y a quelques, tous les prêtres du diocèse de 1800 pratiquement jusqu'à la fin du 20e. Et donc là, par exemple, là, juste avant que je descende vous accueillir là en bas, j'avais une demande de quelqu'un qui fait une recherche sur un abbé, qui était chanoine aussi par ailleurs, Trille. Donc là, j'ai pu trouver effectivement toute sa biographie là-dessus. Mmh. Donc, généalogie et beaucoup, au moins autant, je dirais, au moins autant de recherches sur des prêtres. Mmh. Alors, pourquoi ? Alors, c'est très, 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 très divers. Par exemple, pour vous donner une illustration, j'ai découvert, par le biais de cette demande, qu'un des prêtres du diocèse, qui s'appelait Joubert, a été sanctionné à Toulouse, parce qu'il était aussi sourcier, et donc il n'a pas quitté l'église, mais il a eu une sanction canonique qui lui a interdit, si vous voulez, de dire la messe. Il est parti en Algérie, nous sommes dans les années 20, et là, ces dents de sorcier vont être extrêmement utilisées à Oran, puisqu'il va découvrir beaucoup d'eau, évidemment, dans un pays aride comme l'Algérie, quelqu'un qui découvre de l'eau, évidemment, est très utile. Et il va devenir, 5 ans après, maire d'Oran. Et il va faire une grande carrière politique, ce qui va finir un peu, d'ailleurs, un peu mal, puisque, bon, pendant la guerre, la Seconde Guerre mondiale, il y aura des choix un peu malheureux. Et donc, quelqu'un qui fait une étude sur lui m'a demandé quel était son parcours à Toulouse et essayé de savoir d'ailleurs pourquoi il avait été sanctionné. J'ai eu des difficultés à le trouver. Alors, je l'ai renvoyé sur l'officialité, parce qu'il a été sanctionné, donc il y a un tribunal ecclésiastique, l'officialité, pour avoir des documents complémentaires. Vous me demandiez si j'étais amené à faire quelques études.
Oui.
Oui, alors il y a pour la province du Midi, tous les archivistes se sont réunis, si vous voulez, dans une sorte d'association. Il y a des travaux communs aux archivistes de la province du Midi, et il y a aussi, nous collaborons aux travaux de l'association des archivistes religieux de France. Et pour ce faire, nous leur produisons des études. Par exemple, va sortir une grande étude sur les évêques du Concordat, donc de 1801 à l'an 2000. Et donc moi, j'ai dû, mon travail, ça a été de faire présenter une biographie, les photos, portraits, armoiries, installations, dates principales de leur biographie, des évêques de Toulouse, du diocèse de Toulouse. Et là, on va préparer quelque chose sur le costume religieux, sur les costumes religieux. Et justement, j'ai trouvé dans un des livres
On n'a rien sur vraiment les costumes religieux, nous. Mais j'ai trouvé dans un dictionnaire ecclésiastique toute la réglementation du concordat sur le port de l'habit religieux en ville. Donc je vais leur proposer de parler de la réglementation de l'habit religieux hors, évidemment, hors de l'édifice du culte, en ville. J'ai trouvé la réglementation, alors en plus c'est du droit, il y a même des arrêts sur le port de l'habit religieux en ville qui était réglementé, si vous voulez, sous le concordat, je l'ai découvert. Et je me suis dit que c'était un sujet et je dois le leur proposer d'ailleurs. Voilà, donc on fait des travaux. Si vous voulez, ensemble, en archiviste. Mm-hmm. Et c'est publié. C'est publié dans des ouvrages ou dans des revues. Voilà.
C'est une photographie de l'église d'un certain moment. En
fait. Voilà. Et puis, on voit que c'est la continuité aussi. Oui. La continuité de l'institution. Et que sa place, on voit bien que sa place n'était pas la même selon les périodes. Son poids, par exemple, au 19e, apparaît vraiment très important quand on voit la documentation. Je veux dire, quand on adresse une lettre par exemple à l'évêque, c'est des superlatifs, on a l'impression qu'on s'adresse pas à Napoléon mais presque. C'est alors que au 20e et a fortiori au 21e, ça s'est un peu banalisé. C'est un courrier qui est beaucoup plus neutre, si vous voulez. On voit les adaptations sur le long terme. Il y a des évolutions. Il y a aussi là, je crois, attendez, il y a quelque chose d'intéressant. Par exemple là, c'est un dossier extrêmement demandé, c'est les enfants juifs qu'il a, sa liège là, qu'il a sauvé, qui était caché à Vendine. Donc là, c'est le dossier avec leur nom. Vous voyez comment ça se présente, vous allez voir comment ça se présente.
Ah oui, là c'est un nom polonais, Zakrewski David.
Alors, en réalité, il était confié, les parents, dans un papier, donnaient mandat au cardinal Saliège de s'en occuper. Donc, il y avait une lettre des parents qui le chargeait, en quelque sorte, qui lui donnait une sorte d'autorité parentale, en quelque sorte. Donc là, on a tous les enfants.
Et est-ce que vous savez s'il y a certains de ces enfants ensuite qui ont été sauvés, qui sont venus après chercher des...
Ah mais écoutez, au tout début où je suis arrivé ici, j'ai un Belge qui nous a contactés, qui a 90 et quelques années maintenant, et qui voulait des photos de Vendine, de l'endroit où il avait été, parce qu'il a écrit un livre. Et il voulait, pour illustrer ce livre, des photos de la maison où il avait été caché à Vendine, puisque là, tous les enfants étaient à Vendine. Vendine, c'est du côté de Bourg-Saint-Bernard, sur la route de Castres. Et donc, il se trouve qu'un conseiller municipal de Vendine était venu juste avant, parce que pour le bulletin municipal de Vendine, il voulait faire un peu l'historique de ce que la commune avait fait dans cette affaire de sauvetage des enfants juifs. Et donc, je l'ai contacté, il m'a amené à l'endroit, on a fait les photos, et j'ai pu lui envoyer en Belgique. Il était tout à fait content parce qu'il va illustrer son livre avec ça. Donc, il y a des gens qui sont passés par Vendine et qui ont été sauvés, qui existent encore et qui nous contactent. Oui, c'était assez émouvant.
Vous êtes un des gardiens de la mémoire ici. Garder vivante cette mémoire, mais c'est aussi une dimension de notre foi. Première mémoire, selon les évangiles, la transmission. Le Christ qui nous dit, faites ceci en mémoire de moi. La mémoire, c'est une dimension vraiment de notre foi.
Ah, tout à fait, parce que notre foi est effectivement, elle est incarnée, donc elle a une histoire, on a des prédécesseurs, et y a une, l'Église parle de la tradition de l'Église, la tradition, la transmission, et c'est pas on n'arrive pas chacun d'entre nous avec une table rase. Donc il y a la tradition, la transmission, tout ça, évidemment, participe de la foi. C'est constitutif de la foi, bien sûr. D'ailleurs, bon, notre religion remonte à 2000 ans, donc il faut bien... Il y a une part d'histoire, il y a une part de mémoire, il faut revenir en arrière. Donc ce travail participe de la foi et la fait vivre.
Parce que c'est vrai que ce sont des exemples aussi de vie. Et les exemples, c'est porteur de foi, je trouve, me semble-t-il. C'est sûr, c'est pas uniquement historique. C'est pour ça que c'est pas que de l'histoire, c'est le support d'une mémoire.
Et d'ailleurs, celui qui perd sa mémoire ne perd-il pas son identité ? Et quant à nous, nous retiendrons aujourd'hui les 4 C connus de tous les archivistes, collectés, conservés, classés et communiqués. En filigrane, et grâce à notre guide Christian Laviolle, ils ont tissé la trame de ce reportage.